Il est 19h sur le 101.5 de Radio G, et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Au programme ce soir, du polar, du manga, beaucoup de manga et encore un peu de manga si vous en aviez pas encore. Allez, attention, générique.
Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku-oni. Ore wa naru.
Batman. Oh, la petite ch'touf.
Batman. Trop vite. Tu n'es pas fait toi ici.
Justement, les touristes de bord.
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre esprit les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. Ce soir, je suis en compagnie de Luc. Ça va, Luc ?
Salut, Seb.
Et je suis en compagnie de Richard. J'ai pas appuyé sur le bon bouton.
Salut, Seb.
Ça va bien ?
Ouais, t'as vu, je suis parti avec mes instruments directement, j'étais trop content.
Eh ben, complètement à balle. Fabien n'est pas avec nous ce soir, du moins pas physiquement, mais il sera quand même présent puisqu'il nous a préparé une petite chronique. On en parlera, je sais pas dans quel ordre on va commencer. Je vais peut-être y aller avec juste des images dans un premier temps, avec un gros ouvrage. Est-ce que ça vous parle, L'Attaque des Titans ? Alors peut-être un peu plus, Richard, que Luc ?
Non, moi pas beaucoup, pas trop, pas du tout en fait.
Pas du tout. Ok. Alors pourtant ça a été le méga carton en fait animé de ces dernières années.
Ouais, alors L'Attaque des Titans est qui est plus connu avec le terme SNK, donc
Shingeki no Kyojin.
Je l'aurais pas tenté, mais voilà.
Qui est un manga on va pas dire post-apo, mais il faut imaginer un monde où l'humanité vit reclus dans un château avec plusieurs enceintes. Et pourquoi l'humanité vit reclus dans ces enceintes ? C'est parce qu'il y a des titans, des espèces de grandes créatures humanoïdes nues qui se baladent à l'extérieur et qui ont tendance à boulotter les humains.
Ils viennent manger les humains.
C'est ça.
C'est plus une citadelle qu'un château.
Oui, c'est plus une citadelle.
Il y a un château dans la citadelle. Donc.
Façon Vauban.
Ouais, c'est ça.
Voilà, avec plusieurs enceintes, plusieurs trucs. Mm. Et un jour, il y a une barrière qui tombe, une des murailles qui tombe sous les assauts d'un titan qui a l'air plus bourrin que les autres.
Tout à fait. Et qui mange la maman du protagoniste.
Voilà.
C'est sa mission, non?
Non, en fait, après, plus tard, quand il grandit, il rejoint une sorte de, d'escouade et ils ont des sortes de grappins un peu bizarres pour pouvoir voler.
Avec des équipements tridimensionnels.
Ouais, c'est des équipements tridimensionnels et en gros, ils ont découvert que le seul point faible pour tuer les titans, c'est de couper un bout de la nuque.
Un petit coup derrière la nuque.
Ouais.
Donc, ils utilisent des espèces de cutters géants pour aller. Alors, c'est un manga qui est hyper dynamique. Le générique, t'entends les premières notes, tu sais que c'est L'Attaque des Titans. Et là, en l'occurrence, Pika sort aujourd'hui même. On est le 25, c'est ça, hein ? Non, le 23. Donc, le 25, mercredi prochain, l'artbook officiel.
Ah, tu l'as.
Je l'ai en avance.
Ah ouais, je vois ça. Waouh.
La classe. Un artbook de 128 pages qui regroupe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'illustrations. Des illustrations qui sont pour la plupart inédites en France. Il faut savoir que ces illustrations sont principalement issues des saisons 1 et 2, puisque c'est un ouvrage qui est sorti en 2017 au Japon. Donc, sauf si je raconte des bêtises. Bref. Je ne sais plus. Si c'est ça, c'est 2017. Et du coup, c'est comme son nom l'indique, un artbook. C'est que des illustrations.
Ouais. On pas tous à voir avec l'animé parce que je vois certains personnages en mode cuisinier pâtissier.
Alors, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a quand je l'ai feuilleté la première fois, je trouvais qu'il y avait pas de, il manquait d'explications.
Ouais.
Puisqu'il y a des dessins qui sont issus de collaborations, il y a des dessins qui ont été sortis au fur et à mesure sur le compte Twitter officiel,
ouais.
Qui sont les dessins sur lesquels tu es en train d'arriver,
ouais.
Qui sont des dessins qui sont franchement assez stylés. Et tu as à la fin un petit condensé de toutes les illustrations avec d'où elles viennent. Donc il y a des illustrations, celles que tu mentionnais où ils sont en custo, qui sont des collaborations qui ont été faites pour faire la promotion de boissons énergisantes au Japon.
Okay, ouais.
Donc c'est très très sympa.
Ça reste des trucs officiels, donc si c'est pour faire de la com publicitaire, ça reste des trucs officiels.
C'est que de l'officiel et c'est vraiment sympa. Je vous cache pas que quand je l'ai ouvert la première fois, je me suis dit, ah là là, si c'est pour avoir des captures d'écran de la série animée,
non.
Bof bof.
Non, c'est pas des captures d'écran.
Et en fait, clairement non. Il y a plein de trucs, il y a des personnages qu'on les superpose, il y a des trucs, tu les sors, t'as limite envie d'avoir un poster, et ça marche trop trop bien. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que les artbooks, ça a tendance à avoir un coût assez prohibitif. Et là, on est sur un coût qui est tout à fait modeste de 16 euros.
Ouais.
Ce qui est plutôt bien pour avoir un livre d'illustration, 128 pages, c'est plutôt un rapport qualité-prix qui est plutôt bien. Donc voilà.
Ok. Je suis en train de regarder, je sais plus, il y a une couverture par-dessus.
Il y a une jaquette.
Une jaquette et la couverture officielle, bah, ça reste quelque chose de très sobre. En fait, comme le manga de base, mais
ouais, ça fait façon vieux papier avec juste le titre au milieu. Et bah ma foi, ça marche plutôt bien.
Bah en vrai, si vous suivez cette série, si vous êtes collectionneur et tout ça, ça peut clairement vous intéresser. Après, non, clairement, c'est pas un truc pour rentrer dans l'univers de l'Attaque des Titans.
Les illustrations peuvent, tiens, éventuellement Luc, si tu veux parcourir,
oui.
Mais les illustrations peuvent donner envie de découvrir la série si on connaît pas, parce que ça peut intriguer pas mal. Mais c'est sûr que c'est plutôt un ouvrage qui est à destination des fans que un ouvrage pour quelqu'un qui ne connaît pas.
C'est effectivement intéressant parce que ça sort du cadre des mangas traditionnels, c'est-à-dire comme on est sur des illustrations pleines pages sans cases, enfin je trouve que c'est effectivement intéressant, enfin c'est très beau d'ailleurs, hein.
Ouais.
C'est très très beau, les graphismes sont vraiment très très beaux et ouais non mais c'est intéressant, enfin je pense qu'effectivement pour des passionnés ouais ça peut faire écho. Ouais, c'est plutôt bien. Ouais.
Ouais, c'est vrai, c'est un vrai beau bouquin. Mmh. Alors, pour vous donner un peu les dimensions, on est sur un format 21-29, donc format A4, 128 pages, couverture souple avec une jaquette brillante. L'ouvrage est plutôt classe.
C'est un bel objet.
C'est un bel objet, sans fioritures, mais qui marche suffisamment bien pour ce qu'il est. Donc,
Oui, il reste sobre.
Il reste sobre, et pour un prix qui est, ma foi, hyper abordable.
16 euros, il doit y avoir combien de pages en plus?
128.
128, bah oui, non mais clairement ça vaut le coup. Donc, si vous êtes collectionneur, clairement 16 euros pour 128 pages d'illustration, ça vaut le coup.
10 centimes la page.
Ouais.
Effectivement. Waouh. <Wow.
va. rire>
J'ai pas eu la présence d'esprit de faire ça, mais oui, effectivement.
Donc, ça sort mercredi, on vous en parle un petit peu en avance, et c'est disponible chez Piqué Édition. Donc voilà, je pense que ce sera pas une série limitée, mais pensez à le réserver, parce que c'est pas forcément des ouvrages qui seront en grosse quantité, je pense, chez vos libraires. Parce que, voilà.
Mais ça existe depuis longtemps, en fait, l'Attaque des Titans, maintenant.
C'est sorti en 2013, si je ne me trompe pas. C'est ça, au Japon, c'est sorti en 2013, en avril 2013.
Et je crois qu'il y avait une blague comme quoi, à chaque saison, ils disaient que c'était la dernière, mais en fait non, et encore aujourd'hui, ça tourne.
Alors, pour être hyper transparent, j'ai pas tout regardé.
Ah ouais.
Pour une raison assez simple, c'est qu'effectivement les saisons sont chaotiques et la saison finale devrait sortir, si je ne me trompe pas, à cet automne. Donc, alors, juste le nom de la saison finale,
ouais,
c'est
vois.
Le chapitre final spécial 2. Et là, tu fais.
C'est okay. Là que tu te dis, il y a eu un souci avant.
En fait, il y a une première saison, il y a des saisons spin-off, il y a un film, et en fait, faut vraiment limite avoir un guide pour savoir dans quel ordre regarder tout ça.
Bien.
On parlait de succès, ouais. Faut savoir que depuis la sortie de l'Attaque des Titans, on est à plus de 7 millions de tomes vendus en France.
C'est ah, vraiment un gros truc. Hein.
Quand même.
C'est un truc assez fabuleux.
Ça s'est fait sa place.
Je propose de faire une pause musicale tout de suite. Comme ça, on est parti.
Bah oui, est-ce que t'as l'intro de...
Ben oui, tout à fait.
Ah oui,
je vais mettre l'intro de l'Attaque des Titans. C'est pas très long, mais ça va le faire. Je sais pas si j'ai pas trouvé
c'est
la version.
C'est hyper reconnaissable, Luc, tu vas voir, c'est trop bien.
Et puis c'est très, très péchu. On dirait du Wagner. Non, ça c'est une pub.
Est-ce que t'as l'intro aussi ou c'est tout calme avant?
L'intro, ça?
Ah non.
Voilà l'attaque des titans, le générique, c'est pas le bon bouton. Oh là là, j'ai plus de... C'est toi
même
qui...
C'est moi qui mute à chaque fois.
C'est ça. T'as pas le droit de parler tant que t'as pas
mais
levé
non,
la main.
C'est ça, j'ai ramené mes instruments encore.
Ouais, l'attaque des titans, une série qui est quand même assez formidable. On s'est fait le petit générique en intermède musical, ça dure pas très longtemps, mais voilà. N'hésitez pas, si vous connaissez pas, tous les tomes sont disponibles chez Pika. Il y a trois éditions qui existent, l'édition normale, l'édition colossale, donc un format qui est un peu plus petit que l'artbook, mais qui est quand même un grand format, et puis l'édition anniversaire qui comporte aussi des pages couleurs.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a des pages couleurs.
Donc qui est plutôt cool. Voilà, donc
tu disais en off tout à l'heure que l'artbook que tu présentes là ne comporte aucune goutte de sang, alors que dans l'animé ici, et surtout en fait, il y a aucun spoil.
Il y a aucun spoil. Cool. Vous pouvez y aller, c'est spoil free, c'est pas de divulgachage dans la langue de Molière.
Le divulgachage.
Je propose de rester sur le manga pour l'instant avec du coup la chronique de Fabien qui n'est pas là. On l'a enregistré la semaine dernière et c'est l'occasion de l'entendre parler d'un truc un peu moins violent qui s'appelle Quand la nuit tombe. C'est quand tu veux, Fabien.
Alors bonsoir à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler cette fois d'un manga qui n'a strictement rien à voir avec tout ce dont je vous ai parlé précédemment.
T'as un truc joyeux du coup pour une fois.
Alors malheureusement non, c'est pas joyeux, mais on est sur du réaliste, c'est-à-dire sociétal. Donc vraiment, ouais, tranche de vie on va dire, mais dramatique.
Ok.
Donc je vais vous parler d'un one-shot qui est sorti tout récemment, donc là on est vraiment sur de la nouveauté, qui s'appelle « Quand la nuit tombe » par l'autrice, donc là on est sur une mangaka, qui s'appelle Rie Haruga, qui est aussi notamment très connue par rapport à son manga « Perfect World », qui, pour le coup, lui, parlait de handicap, de la place du handicap dans la société.
Je l'ai lu, celui-là.
Ah ouais. Moi, j'ai pas eu l'occasion, mais il paraît qu'il est vraiment très bien.
Bon, on va se faire des échanges de BD.
Ouais, c'est ça. Va falloir qu'on se prête les choses un petit peu. Donc, du coup, de quoi ça parle quand la nuit tombe? Donc, on est au Japon, à notre époque, zone industrielle de la région du Tokai. Takaomi et Ao sont amis depuis le collège. Tout leur entourage imagine qu'ils vont finir par se mettre en couple, mais la vie en décide autrement. Quand le père d'Ao, patron d'une usine locale, viole la mère de Tokiwa, tout leur monde s'effondre. Comment rester amis quand les actes des adultes ont des conséquences si lourdes? Donc tout de suite, en effet, ça pose le décor. C'est un sujet lourd, difficile, qu'elle attaque vraiment ça. Mais elle l'attaque de manière, j'ai envie de dire, pas bienveillante, mais disons avec un regard qui n'assombrit pas les choses. Donc c'est vraiment une lecture qui se fait bien, même si c'est dur.
Mais pas de pathos dessus, quoi.
Non, ça, pas du tout. Elle a vraiment, pour ça, elle est vraiment très douée. C'est-à-dire qu'elle va pas rajouter de surcouches, ça va pas tomber dans le mélodrame. C'est vraiment sympa. Donc, alors certes, c'est un sujet très complexe, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le prisme par lequel elle aborde le sujet. C'est-à-dire qu'elle va pas se regarder par rapport à l'auteur ou à la victime, mais par rapport aux conséquences de l'acte sur ces deux jeunes. Ces deux jeunes enfants qui, eux, n'y sont pour rien. Et du coup, vont devoir subir, entre guillemets, ce qui s'est passé. Parce que l'objectif, en fait, lui, en tout cas, lui, ce qu'il aurait aimé, c'est que rien ne change. Parce que pour lui, il comprend pas. Il se dit, bah, certes, c'est ma mère qui s'est fait violer par son père, mais elle n'y est pour rien. Pourquoi est-ce que notre relation devrait changer? Et en plus, là, on est face à deux élèves, j'ai pas dit, mais qui sont des élèves très intelligents. Vraiment, où tout se passe très bien. Ils ont une vie, ils avaient une vie parfaite, entre guillemets. Avant, et là, du coup, lui, il aimerait que tout se passe comme ça. Donc, il essaie de faire comme si c'était pas arrivé, entre guillemets, même si c'est pas possible. Mais c'est là où il va y avoir le poids de la société, en fait. Le regard des autres. Il va commencer à y avoir les messes basses, les gens qui vont se dire, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas bien. Pourquoi il fait ça et tout? C'est pas normal. Alors que pour lui, il comprend pas pourquoi il y a ça. On en est même à avoir aussi ce côté complètement opposé. Il va se retrouver face à des abrutis. Je vais employer vraiment le mot en étant, et encore je pourrais être beaucoup plus vulgaire, qui vont commencer à dire que c'est la faute de la mère parce qu'elle est trop sexy. On va avoir ce côté-là aussi. Donc, malheureusement, dans notre société, on entend ces choses-là. Bah, elle était habillée n'importe comment, machin et tout. Et donc, elle va vraiment mettre la société et les réactions des gens au cœur de l'histoire pour nous accompagner et nous montrer ce qui va se passer pour ces deux jeunes. Et elle fait ça vraiment d'une manière remarquable. C'est émouvant même. Il y a vraiment des passages où on est pris par cette lecture. Alors c'est un one shot, donc ça se lit très vite. Mais moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors c'est pas normalement, je suis pas trop la cible de ça. Habituellement c'est pas ce que je lis, mais j'en avais entendu vraiment beaucoup de bien, donc je me suis dit bah j'y vais, c'est un one shot. J'avais entendu que Perfect World c'était très bien aussi, donc je me suis dit vas-y je tente le coup et j'ai trouvé vraiment ça excellent. Et on va aussi avoir une vision 8 ans plus tard. Donc j'en dis pas plus. On va les retrouver adultes et là on va pouvoir voir bah du coup
les conséquences. Bah,
qu'est-ce qui s'est passé, les conséquences plus loin et commencer. J'ai pas parlé du dessin. Donc le dessin il est propre, clair. C'est un dessin vraiment classique tranche de vie. On est voilà, il y a rien de particulier à dire. Ça fait bien le boulot. C'est bien dessiné. On n'est pas sur un style vraiment particulier, mais elle a des petites fulgurances de décor. Non, c'est chouette. On retrouve les émotions des personnages. Donc il y a vraiment tout va bien pour nous mettre vraiment dans cette lecture. Et je la conseille aussi bien aux adultes qu'aux adolescents. Parce que même si en effet c'est un sujet qui est difficile, mais la façon dont il est abordé amène plein de bonnes choses en fait. Montre le côté pervers de la société et aussi des bonnes choses, parce que forcément il n'y a pas que des gens qui sont mal intentionnés. Et sincèrement, je pense qu'à partir de 13-14 ans, ça peut commencer à être lu et ça peut amener des bonnes choses pour nos enfants.
Ouais, ça peut poser des réflexions.
Des bonnes réflexions.
Des enfants vers le qui arrive aux adultes et l'inverse.
Oui, et inversement. Et puis de se dire que, bah, les réactions, de se rendre compte, bah, non, mais ils ont des réactions débiles. Ou au contraire, oui, c'est comme ça, comme lui, c'est mieux. Accompagner, soutenir, plutôt que de juger. Et on a tout ça dans ce manga. Et franchement, je trouve qu'il fait vraiment bien le boulot et c'est à recommander pour tous les âges. Alors, peut-être pas en dessous de 13 ans parce que là, il comprendrait pas et ça serait trop compliqué, mais déjà, à partir de quatrième, je pense que ça peut être cool.
Super. Je te laisse redonner les références.
Ouais, donc c'est Quand la nuit tombe, chez Akata, en un tome du coup. Et la mangaka s'appelle Rie Haruga.
Je veux pas faire de la pub spécifiquement pour Akata, mais si vous aimez les mangas, intéressez-vous à ce que fait cet éditeur. Ils ont souvent des choses qui sont plutôt en marge, soit du côté complètement barré avec des mangas complètement dingos, soit des mangas justement qui sont très dans l'émotion, très dans les sujets pas simples. Et c'est un éditeur qui, je trouve, prend des risques qui valent le coup qu'on aille se poser chez eux, en fait.
Ouais, je suis d'accord. Ils ont beaucoup de mangas sociétaux comme ça, où ils abordent des sujets. Ça peut être sur les problèmes LGBT, ça peut être sur le problème du handicap. Voilà, il y a pas mal de thèmes qu'ils abordent comme ça, qui sont pas faciles, mais toujours, ils choisissent toujours les bons mangas pour le faire. C'est-à-dire que c'est pas pathos, c'est bien amené, et du coup là-dessus ils sont très forts. Et de l'autre côté, je te rejoins parce que moi j'adore leur édition What the Fuck, parce qu'ils ont une édition qui s'appelle What the Fuck, où là vraiment c'est du barré au possible. Et j'en ai quelques-uns et je m'éclate à chaque fois avec.
Il y avait quoi ? Tu sors un saumon, mon fils ?
Ouais, il y a ça.
Moi, j'aime beaucoup Magical Girl Holy Shit.
Ouais, bah, et ils ont aussi Magical Girl of the End aussi. Voilà, il y a plein de trucs.
Allez jeter un œil, parce que sinon, on va tout citer.
Ouais, c'est ça, carrément.
Mais ça vaut vraiment le coup.
Ouais, très cool.
Et bah, écoute, merci Fabien.
Bah, de rien.
C'était la chronique de Fabien sur Quand la nuit tombe. On a dérivé un petit peu à la fin, en fait, pour parler des éditions Akata. Je pense qu'on en a déjà dit assez de bien dans cette interview, enfin dans cet échange avec Fabien. N'hésitez pas, c'est de la balle. Nous voici de retour. Et ben, je te proposerai bien, du coup, Luc, d'enchaîner, si tu le souhaites.
Eh ben, écoute, enchaînons. Hein,
on va
sortir de l'univers manga.
Hein, ouais, on y reviendra après.
Mais je sais ton tropisme pour le manga.
Non, mais j'aime bien tout, mais c'est que j'ai une grosse période manga là, donc bon. Je te passerai autre chose. Ça m'intéresse beaucoup, par exemple.
Ouais. Bien, bah écoute, donc bah tu te souviens, il y a 15 jours, je présentais un album que moi je trouve extraordinaire, qui s'appelait Un certain Daneri, pour lequel j'ai essayé de te faire partager mon enthousiasme. Bah aujourd'hui, changement de décor, mais enthousiasme tout aussi fort avec l'album dont je vais te parler.
Tu seras pas surpris si je te demande de quoi il s'agit.
Eh ben, je vais à nouveau essayer de défendre un gros roman graphique dont je suis convaincu qu'il s'agit d'une pépite. Je veux parler de Trou de mémoire de Pascal Regnault et Roger Saiter, republié aux éditions des Quatre Mondes.
Et c'est donc toujours du polar.
Et c'est toujours du polar, bien évidemment, puisque je t'ai promis une chronique polar. Et puisqu'il s'agit d'une chronique polar, quoi de mieux que les États-Unis pour y installer l'action ? Et comme il s'agit bien d'une chronique polar, quoi de mieux pour démarrer l'histoire que le port de San Francisco ? Un homme reprend conscience sur un wharf. Il pleut. À portée de sa main, un revolver, un 38 spécial. Tout à côté, le corps d'une femme tuée d'une balle. Et il fait immédiatement le lien, il a tué cette femme. Mais il a un problème, il a perdu la mémoire. Cet homme est étrange parce qu'il a de mystérieux réflexes qui laissent penser que le monde du meurtre lui est familier. Sur son manteau, du sang. Il est donc le premier suspect si la police le prend. Premier réflexe, il jette le revolver dans le port et là, au loin, il reconnaît l'île d'Alcatraz. Il sait qu'il est à San Francisco. Dans les poches de son manteau, la carte d'un hôtel, il s'y rend, il semble être connu sous le nom de Wilson, mais est-ce son véritable nom ? Pendant ce temps, la police commence ses investigations autour du corps de la femme. Une autre arme, un pistolet calibre 22, y est retrouvée, une tache de sang au bord duquel laisse penser que quelqu'un s'y est tenu. La police décide de fouiller le fond de l'eau, mais au même moment, on découvre le corps du sénateur Patterson, assassiné dans son lit, à côté d'une femme qui n'est pas sa légitime. Le FBI est sur le coup. Toutes les forces de police sont réquisitionnées, y compris les inspecteurs Aaron Karnofsky et Kyle McGowan, en charge de l'enquête sur la femme assassinée. Les recherches autour de la villa du sénateur Patterson laissent penser que l'assassin est un tireur d'élite. On retrouve des traces à plus de 300 mètres de la fenêtre de la chambre du sénateur et surtout on retrouve un bouton. De son côté, Wilson, l'amnésique, trouve des affaires dans sa chambre d'hôtel. Il habiterait New York. Il décide de s'y rendre, mais dans son subconscient, il pense qu'il commet des erreurs sans savoir lesquelles, et c'est bien pire que ce qu'il peut imaginer.
Ah, n'en dévoile pas plus sur l'intrigué. Mais dis-nous, d'où vient ce roman graphique ?
Alors tu as raison, c'est un grand polar et c'est un grand roman graphique. Le scénario est impeccable, bien qu'il décline une base classique, l'amnésique qui agit sans comprendre ce qu'il engage dans ses actes. Mais c'est une intrigue rudement bien construite dans laquelle la mafia est inévitablement un des protagonistes. Même si on retrouve tous les ingrédients du polar de base, Roger Saiter, le scénariste, a réussi à les intriquer d'une façon tout à fait originale et on se prend au jeu des 110 pages du roman. Roger Saiter est un scénariste plus que prolifique. Hormis les thèmes de son Alsace natale qu'il a développé dans de nombreux albums, il est à l'origine de séries plus qu'efficaces telles que Dark en deux tomes ou 12 septembre aussi en deux tomes publié chez Casterman.
Alors la série Shark a l'album entre les mains, le graphisme c'est une dinguerie en fait encore.
Il est magnifique.
Ouais, le dessin sont de Pascal Regnault et c'est du radical. Tout est en angle, même les personnages. Il leur dessine des yeux tellement étranges que notre attention est portée sur eux. Si bien que le visage qu'il fait à Wilson ne le rend pas sympathique. Autre élément fort du travail de Regnault, les choix colorimétriques. Le roman est décliné par monochromie successive. On passe de séquences à dominante noire, à d'autres, les plus nombreuses où c'est le marron qui est décliné, ou à d'autres encore où c'est le bleu. La première séquence, par exemple, est dans les dominantes noires où seul le rouge du sang vient créer le contraste et augmenter la dramaturgie du démarrage de l'histoire. Et ça contraste diablement avec ce qu'on connaît du dessin de Pascal Regnault, puisque c'est lui qui dessine les aventures de Canardo depuis le numéro 10 de la série imaginée par Sokal.
Et qui a publié cet album ?
Alors, Trou de mémoire est une réédition et c'est les très bonnes éditions des Quatre Mondes qui s'y sont collées à juste raison. Mais Trou de mémoire s'était initialement publié en 2015 par les courageuses éditions strasbourgeoises du Lombec qui ont dû cesser leur activité en 2020, trop fragiles économiquement et incapables de rivaliser avec les majors. Parmi les pépites, il y avait aussi El Boxeador et Insoumise de l'espagnol Rubén del Rincón, ou une série iconoclaste reprenant le concept des livres pour tout petit Madame et Monsieur, avec pour titre Monsieur Picole, Monsieur Facho ou Madame Bigotte, qui n'était pas à mettre dans les mains de nos chères têtes blondes. Les éditions des Quatre Mondes sont tout aussi alsaciennes que les éditions du Lombec. Elles sont nées en 2022 à Dütlenheim, à l'initiative de Lionel Muller, qui en réalité a repris les éditions du Lombec. Trou de mémoire est leur première publication. Il s'agit de l'intégrale, augmentée d'un épais séquencier en fin de volume, ce qui fait que l'album, avec ses 160 pages au total, pèse un poids mérité. Et comme il faut soutenir l'édition indépendante, ils ont lancé une campagne sur Ulule, nouvelle manière pour sécuriser les publications, pour publier L'Enfer pour Aube de Philippe Pélez et de Tiburce Auger, pour donner un avant-goût de cet Enfer pour Aube, dans le Paris du début du XXe siècle, un étrange personnage recouvert d'une écharpe rouge assassine des notables. Trou de mémoire, c'est publié par les éditions des Quatre Mondes. C'est un pavé qui doit nécessairement intégrer la bibliothèque de tout bédéiste revendiqué. Ce serait une faute de goût de ne pas le posséder.
Et je te remercie pour ce livre, Luc. Ouais. clairement, c'est magnifique. L'histoire a l'air vraiment passionnante, donc ça a l'air assez stylé.
Ouais, c'est assez rare de trouver un album avec un scénario qui est parfaitement structuré, parfaitement cohérent. Et là, l'histoire de ce personnage, de ce Wilson qui va traverser tous les États-Unis, enfin qui va découvrir toute son histoire, c'est dingue. Et je ne divulgacherai pas la fin, mais la fin est extraordinairement magnifique. C'est voilà, c'est un grand roman. Moi, je suis tombé scotché par un graphisme qui peut être déroutant. Enfin, ça peut paraître un peu, peut-être un peu vieillot, peut-être un peu classique. C'est pas du tout le cas. On se fait piéger par cet album. Moi, je l'ai lu d'une traite et c'est vraiment magnifique. Voilà.
Ça a l'air vraiment stylé. Je reviens sur deux choses que tu disais. El Boxeador, c'est pas le livre qui se lit dans les deux sens?
Non.
D'accord. Non. J'en ai vu un autre sur un. Ouais. Bref. Ouais.
Donc c'est, mais c'est des. Alors moi j'essaye dans cette chronique de soutenir un peu des petites maisons d'édition, des toutes petites maisons d'édition, parce qu'il me semble que elles font un vrai travail, un travail très courageux. Quand on voit cet album, on se dit mais bon sang, comment une, enfin Glénat, Dargaud, tout ça, ils ont la force de frappe. Et c'est des gens qui prennent véritablement des risques. Et moi je trouve ça génial, tout simplement.
Bah puis c'est l'occasion de les mettre en avant justement pour cette prise de risque. Hein.
Oui.
Parce que là, c'est...
Ah bah c'est un pavé, oui.
Et le personnage me fait penser à Lino Ventura.
Un peu, ouais.
Ouais, il y a un peu de ça, oui, tout à fait. Mais c'est vraiment... j'ai pas réussi à dater l'esthétique du graphisme, parce que c'est quand même un graphisme qui me fait penser plutôt à un graphisme des années 60, 70, enfin on est à peu près dans une période de ça. Mais je trouve que ça fonctionne parfaitement bien, quoi. Enfin c'est vraiment les deux auteurs, hein, c'est des gens qui ont la cinquantaine, mais c'est cultivé, c'est fort, et il faut le lire, quoi, voilà. Et en plus vous ferez une bonne action, les éditions des Quatre Mondes méritent qu'on les soutienne.
Tu t'as dit combien il coûtait, le livre?
Non, j'ai pas dit, mais je vais le dire. Je ne sais pas.
Il coûte un certain prix. Oh.
Il est à moins de 20 euros. Hein.
Okay. Ah oui, voilà. C'est pareil. Enfin, c'est plutôt rentable, hein, du coup.
Ah bah oui. Oui, oui.
Bah, combien la page?
Oh non, c'est reparti. Allez.
Eh ben écoute, en tout cas, belle découverte. Mais enfin, comme à chaque fois, du coup, c'est pas...
Bah oui, ben la prochaine fois, ce sera ça. Et c'est...
Les évaporés,
c'est pas du manga, c'est un dessinateur japonais, mais vous verrez, c'est encore... c'est aussi bien.
On va découvrir ça. Voilà. Moi, je vais faire une petite incursion dans ton domaine. Alors, pas tout à fait, puisque du coup, c'est pas du polar, mais c'est du roman policier en manga, avec Meurtre dans le Décagone. Ça a été un coup de cœur, en fait, quand j'ai eu le premier tome, je me suis laissé complètement happer par l'histoire. Et tu vas voir que je pense que c'est une lecture qui pourrait te plaire.
Ah ben...
Imagine un groupe d'étudiants qui font partie d'un club d'amateurs de romans policiers, à tel point qu'ils se sont chacun donné un surnom d'auteur de romans policiers,
ah oui.
Parce que voilà, selon leur favori, et ils partent en vacances sur l'île de Tsunojima. Et ils vont aller résider dans le Décagone, qui est un bâtiment, une architecture décagonale, hein, du coup, et qui a été créé par un architecte. Et cet architecte, il est mort 6 mois plus tôt dans un incendie sur cette même île. Et lorsque les membres du club débarquent dans le Décagone, ils vont avoir une surprise un petit peu particulière, qui m'a beaucoup fait penser aux Des Petits Nègres. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leur chambre dans ce Décagone, et sur la table, il y a des plaquettes où figurent les mots « victime », « détective » et « coupable ». Et ces mots-là semblent leur être destinés. Et au même moment, en dehors de l'île, il y a une autre étudiante, ex-membre de ce club, qui va recevoir une lettre de la part du mort. Et elle va commencer à essayer d'en savoir plus sur cette lettre, accompagnée d'un théologien bouddhiste, lui aussi passionné de romans policiers. Et ça nous donne une double enquête. On a l'enquête façon Agatha Christie et Des Petits Nègres, vous en doutez un petit peu quand même, qui va se dérouler sur l'île. Et puis une autre enquête plutôt, je suis pas hyper calé en roman policier, mais plutôt une enquête un peu plus classique, à la Columbo un petit peu, où on va enquêter, essayer de comprendre pourquoi en fait quelqu'un qui est censé être mort a quand même réussi à envoyer un courrier. Qui était-il? Pourquoi a-t-il créé ce Décagone? Et il y a des rebondissements très régulièrement. Moi, j'étais vraiment complètement happé par cette histoire, parce que c'était vraiment un truc. Ça marche bien, ça marche ultra bien. Les personnages. Moi, j'adore Agatha Christie à la base. Et là, on retrouve tout le sel, tous les. Comment dire? Tout porte à croire que ça va être lui, et tu sais que c'est lui. Et lui, il est mort.
Et là, c'est pas le colonel Moutarde.
Mince. Oui, il y a un peu ce côté Cluedo, ouais, en fait, ouais, dans ce meurtre dans le Décagone. Graphiquement, ça marche bien. Il y a beaucoup de décors. Les personnages sont assez caractérisés pour être facilement reconnaissables. Ils sont bien construits. Ils sont intelligents dans leurs réflexions. Ils sont pas stéréotypés, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et ce qui passait pour des vacances un petit peu simples finit en woodenite assez forcené. Et c'est vraiment stylé.
Bah, en le feuilletant comme ça, bien sûr, hein, c'est juste un survol comme ça, rapide. Déjà, le graphisme, moi, je trouve vraiment intéressant. Je maîtrise pas les codes du manga, mais je trouve qu'on est face à un graphisme, face à une mise en page, surtout une mise en page qui est vraiment tout à fait intéressante. Effectivement, les personnages, bon, on retrouve Agatha, on retrouve les grands noms du roman noir et du polar. Et ouais, je trouve ça c'est intéressant que finalement les codes du whodunit, comme tu dis, qui continuent encore à être d'actualité, quoi. Donc c'est ça a l'air pas mal, effectivement.
C'est une histoire, c'est un hommage, une lettre d'amour au roman policier tel qu'on pouvait le connaître.
De ce que tu m'en dis, en fait, j'ai l'impression que c'est un subtil mélange entre Battle Royale Danganronpa.
Ils font de l'enquête de base. Danganronpa, c'est une école d'enquête, c'est ça, hein, ouais. Où ils se jugent.
Danganronpa, c'est une classe qui se réveille, et en fait il y a un meurtrier parmi eux. Il faut qu'ils le trouvent, et à chaque fois qu'un cadavre est retrouvé, ils doivent accuser quelqu'un, et la personne doit se défendre très rapidement, autrement elle est exécutée. Et souvent, les premiers tests, c'est pas le meurtrier.
Là, on est un peu différent, parce qu'on est vraiment sur de l'enquête pure, avec des indices qui vont être analysés, suranalysés. Il y a un personnage qui est empoisonné, et après tout le monde se regarde en chien de fusil, plus personne veut manger en dehors de sa propre chambre des trucs qu'il a préparés. Et à chaque fois, il y en a un qui... Il y a le côté Des Petits Nègres, un de moins à chaque fois, et qui marche bien. Et il y a aussi cette enquête à l'extérieur qui éclaire aussi sur les événements qu'on puisse passer sur l'île, qui fait que les membres du club ne peuvent pas deviner ça. C'est des éléments auxquels ils n'ont pas accès. Et on comprend, nous, peut-être plus vite que les protagonistes, ce qui est en train de se passer. C'est une série qui est complète en 5 tomes, ce qui est plutôt cool. Elle vient de se terminer il y a quelques mois, et elle a été sortie au rythme d'un tous les 2 mois. Donc ça faisait 1 an pour avoir 5 tomes, c'était plutôt cool. Et la série est vraiment très sympa, donc n'hésitez pas.
Faudra qu'on s'interroge sur la passion des des auteurs japonais du manga sur l'île. En fait, effectivement, tu citais Battle Royale.
Oui.
Enfin voilà, on est l'île comme lieu de des conflictualités et lieu de leur résolution supposée. Avec toutes les extrémités dans lesquelles on peut arriver quand on pense à, bien évidemment à Battle Royale. Mm. Mais c'est enfin voilà, ça mériterait de se pencher sur ce sur cet aspect de la création japonaise.
Après, le Japon est un pays où c'est constitué de beaucoup d'îles, donc
oui,
je
oui.
pense que l'idée vient très rapidement, mais c'est vrai que c'est mis en valeur, c'est vrai.
Et puis c'est un contexte qui permet d'isoler. Alors là, ça se prête tout particulièrement à ce genre de...
Ah ben, il n'y a pas de parasitage, là. On est sur l'île, il n'y a pas de parasitage.
Je redonne vite fait les références. C'est Meurtre dans le Décagone. C'est le dessin de Hiroi Kiyohara. Et c'est un... Le scénario, c'est d'après l'œuvre de Yukito Aya... Je vais y arriver. Ayatsuji. Enfin, genre, change de lunettes dans pas longtemps. Voilà, donc ça fait 1000 pages pour les 5 tomes.
Et c'est chez Pika.
Et c'est chez Pika Édition. Voilà. Je vais continuer chez Pika Édition et sur une île avec les chroniques de la guerre de Lodos, la dame de Phallis. Donc j'imagine que les chroniques de la guerre de Lodos, ça ne te parle pas.
Non,
Richard non plus.
Non.
Ah là 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 là.
Bon, finalement, je suis pas tout seul. J'avais un sentiment de solitude.
Non,
mais
non,
c'est
t'inquiète,
bon, là.
T'inquiète. Je découvre.
C'est partagé.
Alors, les chroniques de la guerre de Lodos, la Dame de Phallis, c'est une réédition dans la collection Masterpiece, donc une collection grand format assez épais. Vous voyez, donc on, par rapport aux autres,
c'est du double manga en fait.
C'est du double manga et plus haut, plus grand, qui a été initié avec Rokugnashi Blues, qui est une série beaucoup plus longue. Là, on a 2 tomes. Et c'est un spin-off, en fait, des chroniques de la guerre de Lodos classique, qui était à la fois un manga et un animé. Et il faut savoir que c'est un monde, alors, sauf erreur de ma part, de donjons et dragons, mais typiquement japonais. Il faut imaginer, en fait, donc c'est une île, sur laquelle il y a eu une, alors, il faut, pour entrer dedans, il faut lire les premières pages qui nous racontent la genèse de Lodos et de cette guerre du bien contre le mal avec les divinités telles qu'elles ont commencé à se taper dessus et que les humains ils ont simplement subi tout ça. Et au bout d'un moment, en fait, sur cette île-là, il y a les hommes qui ont commencé à vouloir faire quelque chose et qui ont ranimé un roi démon qui commence à vouloir reprendre on va dire ses aises sur l'île. Et on suit en fait un groupe de personnes qui va aller tenter d'empêcher ce roi démon et de comprendre pourquoi ce roi démon a repris vie. Et on a plein de personnages qui vont je suis nul en résumé ce soir.
Ouais. Ouais, c'est des gens, ils ont réveillé un roi démon et le roi démon n'est pas content.
Mais c'est un peu ça en fait. On est je veux pas dire que c'est une histoire qui est simple parce qu'il y a plein de complexités, mais on est sur un scénario de jeu de rôle où on va réunir en fait un groupe de personnages. Il y a un voleur, il y a un magicien, il y a une ce qu'on va appeler une paladine qui est la dame de Phallis en elle-même et ils vont aller botter les fesses d'un grand méchant. Y a rien de plus compliqué que ça à la base. Sauf qu'il y a plein de choses entre les deux. Il y a une façon de mettre en avant la magie. La magie, c'est quelque chose d'ultra puissant. Mais une fois qu'on a lancé la magie, on permet aussi à l'adversaire de pouvoir utiliser ou d'intervenir vers soi par la magie. Donc il y a plein de choses, il y a plein de règles d'heroic fantasy qui sont mises en place dedans, qui sont... à la fois original et en même temps tellement classique.
Oh, je regarde comme d'habitude.
Ouais, sous les jaquettes.
Sous les jaquettes,
elles
j'adore
sont très,
faire
très
ça.
Belles.
J'ai pas vu Luc sous la jaquette la première page.
Là, juste l'autre. Non, juste de l'autre côté. Voilà.
Ok. Ah, elles sont belles les illustrations sous la jaquette.
Alors, faut savoir que c'est un ouvrage qui commence à dater. Parce que la première publication de la Dame de Phallis, ça doit être dans la fin des années 90.
Ça se voit. Ça se voit un peu dans le dessin quand même.
C'est sorti en 94 au Japon. Donc il y a un dessin qui est quand même pas mal daté.
Ouais.
Il y a certaines zones, certains moments de bagarre qui sont plutôt brouillons. Donc faut le relire la page plusieurs fois avant de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Après il y a quelques pages qui sont hyper belles et qui prennent vraiment. Si vous connaissez les chroniques de la guerre de l'Odos, c'est à lire parce que c'est important de compléter parce qu'il n'y a pas tant de manga que ça en fait dans les chroniques de la guerre de l'Odos et c'est simplement génial en fait. C'est une série qui est en deux tomes, donc il n'y aura pas besoin de remplir non plus une étagère monstrueuse, même si effectivement, comme c'est la collection Masterpiece, les tomes sont quand même assez imposants. Mais ça rend le truc hyper agréable à lire par rapport à un manga plus petit en fait. Là on profite vraiment de l'ouvrage et voilà, si vous êtes fan de jeux de rôle, si vous êtes fan d'Heroic Fantasy, Seigneur des Anneaux, tout ça, vous allez kiffer.
Je sais pas si t'as ça aussi Luc, mais à la fin du tome 2 j'ai des illustrations en couleur.
Oui
aussi.
Oui, il y a quelques, non il y en a moins
à la fin
en fait. Sur le tome 1, c'est l'intro qui est en couleur. C'est le résumé de la mythologie, en fait, ouais, avec toutes les différentes divinités, leurs antagonismes.
Et le papier, ce n'est pas le même non plus.
Non, c'est un papier glacé.
Il y a couché brillant, puis après, il y a le traditionnel papier.
Et tu vois, alors moi, j'ai du mal avec, comme tu dis, c'est daté, et surtout l'illustration. Il me semble que Berserk, c'est un peu dans ce style-là aussi. Je me pose la question, j'ai dit il me semble, mais ouais, c'est pas du tout mon style, mais ça reste quand même deux bels objets en tout cas, et comme tu dis, en deux tomes, bah en fait on a l'histoire complète quoi.
C'est ça, et puis là il y a un nombre de pages qui est quand même conséquent, donc
mais effectivement sans,
et on est sur
sans pour moi c'est toujours des découvertes, hein, le manga ça reste une découverte, mais on se rend compte effectivement après ce que tu m'as déjà montré, ce que vous m'avez montré à plusieurs reprises, on voit bien que le graphisme est plus ancien. En fait, beaucoup plus. Enfin, ça date des années. Moi, ça me fait penser à un graphisme des années 80-90, je pense. Hein.
C'est ça. On est complètement dedans. Ouais.
Et moins. Enfin, les mangas d'aujourd'hui sont vachement plus. Enfin, plus carré, plus serré, le dessin est plus net. Mais voilà, faut. Ça semble effectivement intéressant. Hein.
Ben là, c'est complètement. En fait, on a eu beaucoup de mangas qui étaient avec cette esthétique-là, complètement. On va pas dire brouillon, parce qu'en fait, l'image, elle est quand même bien construite, mais moins lisible, ouais. Je dirais. Un peu comme ce qu'on a pu avoir, sans que ce soit une mauvaise critique, avec les chroniques de la Lune Noire en BD il y a quelques années. Mmh. C'était très dense, très chargé, très exigeant en fait à lire. Mmh. Et voilà, on a un peu perdu ça maintenant, même s'il y a encore quelques trucs.
Si on compare Meurtre dans le Décagone et puis
rien à voir.
Au niveau du graphisme, enfin, on est dans quelque chose qui est plus contemporain, quoi, plus moderne.
Bien sûr.
On sent qu'il y a c'est comme si il y avait une maturation du dessin. C'est-à-dire que on est dans le dessin, il va en se bonifiant, on va dire, en se qualifiant avec les années, les mangakas se répondant les uns les autres, enfin s'entraînant les uns les autres, s'éduquant les uns les autres. Effectivement, quand on regarde les deux, c'est deux mondes différents.
Rien à voir. Mmh.
Et je ne parle que du graphisme.
Oui.
Enfin, voilà, t'as tout résumé parce que c'est. Mais voilà, comme on dit, on parle de manga, on parle de BD, on parle de comics, mais à chaque fois, ce sont que l'itération nationale, on va dire, du 9e art. Mm. Et à l'intérieur de ça, on a des choses qui sont tellement variées. On le voit avec les polars dont tu nous parles. Il n'y a aucun dessin qui se ressemble, aucune narration qui se ressemble. C'est un genre. Le manga, c'est un format principalement. Le comics, c'est aussi un format plutôt feuillet, franco-belge aussi. Mais à l'intérieur, on a toutes les diversités possibles. C'est fabuleux. Tiens, Richard, je te laisse redonner les références du coup.
Ouais. Alors celui-là, il est aussi chez Pika. Et pour le coup, vous avez un tome à 16 euros, donc pour les deux, vous en avez pour 32 euros.
Bravo, bravo, écoute,
t'es fort.
Je ne dirai pas le nombre de pages, par contre.
Par contre, tu peux donner les auteurs.
Les auteurs. Au scénario, nous avons Ryo Mizuno. Et au dessin, nous avons Akihiro Yamada.
Eh bien, c'est parfait. On va rester chez Pika encore avec plutôt la collection Nobinobi. Donc, la plus petite collection. Hop là, je perds mes fiches. Avec un truc qui a. Alors que je n'attendais pas, je vais être hyper franc, graphiquement, je ne savais pas ce que ça allait donner. J'avais un petit peu peur de tomber à nouveau dans un killer game avec des gens qui arrivent dans un lieu et puis il y a des règles. Et si tu ne respectes pas les règles, et ben tu meurs. Parce que ça, ça se fait beaucoup. Et je pense que des fois, je devrais lire les fiches de presse avant de lire. Non mais... clairement, ça conditionne en fait un petit peu la façon dont on va pouvoir lire l'ouvrage. Et mon sentiment dans tout le tome 1, je vais vous expliquer après de quoi ça parle, mais dans tout le tome 1, j'attendais le moment où ça allait mal tourner et où j'allais avoir une scène gore ou un truc comme ça. Le château solitaire dans le miroir, ce n'est pas ça. Je précise. Le château solitaire dans le miroir, alors vous avez peut-être déjà entendu parler de ça sous un des autres biais, puisque nous avons un manga qui est issu d'un roman et qui a lui-même donné un film d'animation qui est peut-être encore au cinéma actuellement. Et de quoi ça parle? Eh ben, ça parle de harcèlement scolaire. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec un truc gore, même si on a vu des mangas de harcèlement scolaire qui finissent pas bien, ou qui commencent pas bien. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus fantastique. On a un côté très Alice au Pays des Merveilles, puisque nous suivons une jeune fille qui, un jour, va voir le miroir de sa chambre scintiller. Et, bah, comme tout le monde qui voit son miroir de sa chambre scintiller, on se dit, tiens, je suis passé à travers. Hein, c'est tellement logique.
Mais c'est ce que je ferais.
Hein.
C'est ce que j'ai fait.
C'est ce que j'ai dit.
Ah ouais.
Voilà. Elle va se retrouver à l'intérieur d'un château. Un château assez grand, avec pas mal de décors, mais aussi avec d'autres enfants de son âge. Elle doit avoir, je sais même pas quel âge elle a, mais... elle doit être au collège.
Elle est au collège. Pense, elle vient d'entrer au collège.
C'est ça. Ils sont 7 collégiens, c'est ça. Et du coup, elle se rend compte qu'il y a ces 7 autres enfants et il y a une jeune fille avec un masque en forme de loup. Et elle va leur expliquer les règles de ce lieu. Des règles qui sont globalement assez simples puisque ce lieu cache une clé. Et si on trouve cette clé, on peut faire exaucer un de ses souhaits. Alors, est-ce qu'on va collaborer avec les autres pour avoir cette clé? Est-ce qu'on va plutôt se tirer dans les pattes? Bah ça, je vous laisserai le découvrir. Mais il y a une autre règle qu'elle dit, c'est que on accède au château que de telle heure à telle heure, et que si jamais on ne respecte pas ces horaires, toutes les autres personnes qui ont été au château dans la même journée seront également sanctionnées. Et il y a plein, il y a quelques règles comme ça. On ne sait pas qui est cette jeune fille avec ce masque de loup, mais ce que l'héroïne va se rendre compte très vite, c'est que non seulement elle est déscolarisée, parce qu'elle a subi beaucoup de brimades de ses camarades et qu'elle en a développé des symptômes physiques, mais que les 7 autres enfants qui sont avec elle sont aussi des personnes qui ont subi du harcèlement scolaire. Et c'est plein d'émotions, c'est... Alors... Moi, je pense que, comme je disais tout à l'heure, je l'ai pas lu le premier tome dans les bonnes conditions. Je m'attendais vraiment à un moment où on allait me faire un truc trash, comme les Japonais savent si bien le faire. Alors qu'en fait, bah, il y a beaucoup d'entraide. Il y a des personnages qui sont quasiment tous, je veux pas dire la caricature, mais l'archétype d'un enfant qui a été traumatisé. On en a un qui est un petit gros. On en a une qui est plutôt garçon manqué. Et tous, ils ont ce souci de scolarité.
Ah, tous ont fait face à du harcèlement et ils se retrouvent tous dans ce château.
C'est ça.
Ok, d'accord.
Mais au départ, ils savent pas en fait qu'ils sont tous issus de harcèlement. La seule chose qu'ils sont capables de dire, c'est que au moment où ils sont censés être en cours, bah, ils sont tous dans le château. Ça veut dire qu'ils sont pas à l'école.
Oui.
Et c'est hyper bien. Alors, j'ai pas vu l'animé. Parce que il y a un film d'animation.
Ah oui, tu l'as dit.
Qui est sorti au cinéma, je pense qu'il a dû sortir dans un nombre de salles assez limité. Les retours de beaucoup de personnes sont que c'est hyper touchant et que si tu ne pleures pas, t'es quelqu'un qui n'a pas de cœur. Je sais pas, je veux pas juger, mais c'est beaucoup de gens qui sont sortis très très émus en fait de ce film. C'est une série courte, encore une fois, est une série en 5 tomes, et c'est vraiment très intéressant.
C'est sorti au cinéma le 13 septembre de cette année.
Ouais, mais est-ce que tu as le nombre de salles en fait dans lesquelles c'est sorti?
Je peux te chercher ça, ouais. Bouge pas.
Parce que le manga est très bien. Le roman est sorti aux éditions Milan. Je l'ai confié à ma fille qui a tendance à ne pas vouloir lire tant qu'il n'y a pas d'image. Elle l'a dévoré. Je fais pas ça parce que la fille elle a un masque de loup, hein. Mais le bouquin en plus est super joli. C'est un bouquin généralement
les éditions Milan elles savent faire hein, dans ce genre de choses. Ouais.
Là le bouquin est super avec un petit signé en tissu et tout. Ils ont vraiment fait un très beau boulot et c'est un vrai carton en fait qui a beaucoup ému les gens. Je vous laisserai une fois que l'émission sera finie aller voir la bande annonce qui a été faite. C'est vraiment très beau, ça donne vraiment envie.
Et cette affaire de miroir, c'est-à-dire que ils entrent dans le château par le miroir et ils ressortent du château par le miroir.
Ils ressortent du château par le miroir, mais chacun en fait a un miroir dans sa chambre.
Oui. Mais quand ils sont dedans, ils sont dedans, quoi.
Quand ils sont dedans, ils sont dedans.
Je sais pas le nombre de salles, je suis désolé.
C'est pas grave. Je pense que c'est pas beaucoup sorti. Parce que moi, j'ai voulu le voir sur Angers et je ne l'ai pas trouvé.
Eh ben, écoute, si tu veux, demain, il y a une séance à Chalonne. Viens, on y va.
Mais je vais travailler, moi, quand même.
Ah mince.
Mais non, c'est très intriguant, les règles, qui est cette petite fille avec ce masque de loup, c'est quoi cette clé? On se doute bien que s'il y a un seul vœu, et ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule clé, donc sur les 7 qui sont là, il y aura forcément des déçus. Il y a plein de petites choses, hein. Il y en a 2 qui ont décidé en fait de s'installer en dehors des heures de cours dans le château. Donc ils ont amené leur console de jeu et puis ils sèchent les cours en jouant aux jeux vidéo dans le château. Ils sont tranquilles.
J'aime bien l'idée de la couverture parce qu'en fait la petite fille qui fait partie du château donc a un masque.
Oui,
c'est ça. Le masque de loup. Ouais. Et ben il ressort de la couverture.
Il est légèrement.
Tout comme le miroir qui encadre les personnages.
Ouais. Ils ont fait un super boulot sur la
relief. Il y a du relief, ouais.
Et la couverture vraiment du livre. Oh, l'idée est bien. La couverture. Alors j'ai enlevé la jaquette. Moi j'adore regarder les couvertures. La couverture du livre, quand vous regardez la première page, et ben vous avez le château solitaire dans le miroir. Et si vous retournez, et ben vous avez la même couverture mais en mode miroir. Et c'est trop cool comme idée.
C'est souvent des petits trucs comme ça qui font que ça. L'édition est très bonne.
C'est pas du tout, et effectivement, apparemment, ça c'est adapté d'un roman, et donc il y a eu une adaptation ciné il y a pas longtemps.
Il y a trois axes en fait, si vous voulez découvrir. Moi, je vous conseille de faire l'axe peut-être roman, manga, film d'animation, qui est sans doute l'axe le plus cohérent.
Et c'est une série complète en 5 tomes, il est indiqué.
Ouais, 5 tomes, encore une fois, t'as 224 pages par tome.
Oui. T'as le prix d'un tome?
Ouais, 7,20€. C'est le prix d'un manga classique.
Ce qui nous fait 36€ la série.
Et par page?
Ça fait 0,36€ par page.
Wow. je vous crois.
Mais moi ce que j'aime bien, c'est que c'est des séries qui sont plutôt accessibles. Parler de harcèlement scolaire, c'est un sujet qui est, à mon avis, d'autant plus d'actualité qu'on a pu avoir des retours pas hyper cool récemment. Et c'est. Voilà.
C'est important, que tous les sujets soient brassés. Et c'est toujours intéressant la déclinaison des romans qui trouvent une seconde vie, voire une troisième vie sous d'autres formes. Mais effectivement, je pense que la préconisation de commencer par le roman, ça me semble effectivement important, commencer par le premier acte en fait de l'histoire.
Ouais. C'est ça. Même si par la porte ou par la fenêtre, par le manga, on se dirigera à mon avis facilement vers le roman et vers le film d'animation.
Oui, c'est évident.
Alors en termes de, d'âge, moi, ma fille a 10 ans, l'a lu, on l'a parcouru avant de lui donner, parce qu'on se pose toujours des questions quand il y a des thématiques de harcèlement. Quelle est la limite qu'on va avoir?
Ah oui, il faut pas fabriquer le dans voilà. la tête des mauvais fantasmes. Ouais.
C'est ça. Mmh. Et non, ça passe bien, c'est plutôt agréable. Il ne restera que le film d'animation à aller voir. Je vous redonne les références. Donc, le château solitaire dans le miroir, c'est au dessin de Tomo Taketomi.
C'est ça.
Sur un scénario de Mizuki Tsujimura et d'après l'œuvre de Mizuki Tsujimura. Et c'est publié aux éditions Nobi Nobi. Oui. Le roman est aux éditions Milan et l'animé dans le cinéma à Chalonne bientôt.
que à 15h demain.
Que à 15h demain. Hop. That's all, folks. Eh bien écoutez, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre soirée. Je remercie Luc et Richard de m'avoir accompagné ce soir.
Merci à toi de nous faire découvrir.
Merci pour l'invitation.
Merci à toi de faire découvrir à chaque fois des bouquins. Et toi aussi, Luc, ton livre, c'est Trou de mémoire.
Trou de mémoire,
ouais. Ouais. Me donne clairement envie. J'ai regardé le prix, pour le coup, entre-temps, et c'est 40 euros.
Ah oui.
Alors c'est un peu moins abordable, mais ouais. Ça les vaut largement.
Mais il les vaut. Ouais.
du coup, on a parlé du trou de mémoire, on a parlé de Quand la nuit tombe avec Fabien, du château château solitaire dans le miroir. Le titre est chiant. Oui. Les chroniques de la guerre de Lodos, la dame de Falis, meurtre dans le Décagone et l'artbook animé illustration de l'attaque des Titans. Voilà, on vous a donné plein de choses. On parlera peut-être un peu plus de comics et diversifier un petit peu plus en dehors du domaine du manga. La prochaine fois, on se retrouve dans 15 jours. Et puis n'oubliez pas d'aller télécharger le podcast sur www.radio-g.fr si vous n'êtes pas déjà en train d'écouter un podcast.
Tout à fait.
Et puis, comme je le dis souvent, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
C'est sûr.
Ah ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? C'est fini. Rentre chez toi.